Luc Lavoie qui fait un retour en force.
En force, le voici, le voilà.
Le voici, le voilà, Grugeot et délicat. Alors, oui, c'est ça. Alors, écoute, là, les services de renseignement américains qui te donnent raison, c'est quand même pas rien.
Ils m'ont pas donné raison, mais ils ont de l'air à chercher pour ça, à regarder l'affaire, parce qu'ils mettent comme hypothèse qu'effectivement, ça aurait pu être une fuite d'un laboratoire chinois à Wuhan, qui est à l'origine de la pandémie. Alors, ce matin, comparaissait devant un comité du Sénat les responsables du service de renseignement américain. Et ils ont été assez clairs là-dessus. La communauté du renseignement ne sait pas exactement où, quand ni comment le virus de la COVID-19 a été transmis initialement. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons et nous utilisons toutes les ressources à notre disposition pour faire toute la lumière là-dessus, a renchéri le directeur de CIA, William Burns.
Qu'est-ce qui nous assure, Luc, que c'est pas une opération politique de la part des Américains pour discréditer les Chinois? Tu sais, dans cette affaire-là, à un moment donné, tu penses-tu vraiment qu'on va connaître le fond de l'histoire puis qu'on va connaître la vérité sur l'origine de la pandémie, toi?
Je pense que oui, mais je pense que la Chine ne l'admettra jamais. Alors, ce sera quoi? Je pense que leur histoire d'une chauve-souris qui l'a donné à un pangolin puis qui a fait des millions de morts dans le monde, ça tient pas la route vraiment. Quand on sait que la pandémie a commencé dans un endroit, Wuhan, où se trouve un des plus grands laboratoires de virologie au monde, et où on étudiait quoi? Exactement ce type de virus. Ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de créer ces virus pour voir comment les combattre en fonction d'une éventuelle pandémie.
Et évidemment, ou comment les utiliser contre un ennemi dans le cadre d'une guerre bactériologique.
Ben, y a ça aussi qui est derrière ça. Le fameux laboratoire de Wuhan, on a toujours cru, puis les services de renseignement américains ont toujours cru, qu'il y avait des recherches de type militaire, de type armes bactériologiques.
Je n'en doute aucunement, Luc. Est-ce que tu en doutes, toi? Est-ce que tu doutes que les...
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je veux encore dire aux gens que faut pas tomber dans la théorie des complotistes comme de quoi les Chinois ont fait exprès pour asservir monde. Puis je ne crois pas ça.
Non, c'est pas la même chose.
Je pense que ce laboratoire-là avait une sécurité déficiente, ce qui avait d'ailleurs été mentionné dans des dépêches diplomatiques envoyées en 2018, et que comment, ça je le sais pas, mais on peut imaginer toutes sortes de scénarios, est-ce que quelqu'un est sorti de ce laboratoire porteur du virus, une ou deux ou cinq ou dix personnes, n'est-ce pas, qui partent dans la communauté, puis tout à coup, paf, ça décolle. Ça a décollé à toute vitesse. Leur histoire de pangolin, je te dis qu'il y a plus grand monde qui y croit, là. Mais au moins une chose à travers ça, Bernard, j'ai appris l'existence d'un animal qui s'appelle pangolin.
Bon, mais regarde, comme dirait l'autre, tu t'es couché moins niaiseux ce soir-là. Bon, OK, parle-nous de la France. La France, eux autres, ça va pas bien.
Une catastrophe. Ils ont dépassé aujourd'hui le lourd bilan des 100 000 morts depuis le début de l'épidémie, en pleine troisième vague. Avec 300 nouveaux décès enregistrés jeudi à l'hôpital, le pays franchit à son tour cette barre symbolique. Alors, malgré la violence de la première vague, et ça frappe là, quand tu dis ça, malgré la violence de la première vague, c'est-à-dire près de 30 000 morts entre mi-mars et mi-mai 2020, la grande majorité des décès sont survenus depuis fin octobre, environ 65 000.
Wow.
Conséquence d'une deuxième vague qui, en fait, n'a jamais pris fin, ne s'est jamais échouée, un peu comme aux États-Unis. La deuxième vague, il y a eu une toute petite baisse, puis c'est reparti, puis on était dans la troisième.
Ah oui.
On parle en France de 5 900 malades en réanimation, ce qu'on appelle ici les soins intensifs, au plus haut depuis le printemps 2020. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je voyais des images ce matin de cette merveilleuse ville qu'est Paris, qui a l'air soudainement d'un désert urbain, comme s'il avait été vidé de ses citoyens. Vraiment, ils vivent ça là, très, très, très dur là-bas.
Et ils en prennent pour leur fierté de Français. Le pays de Pasteur, là, m'a dit. Ben, là, hein?
Effectivement. Comment ça se fait que les Français, qui ont toujours été des leaders depuis Pasteur, dans le domaine de la vaccination et de ce type de recherche, n'ont pas été capables de livrer la marchandise? C'est d'autant plus intéressant qu'on note que parmi les firmes qui fabriquent présentement les vaccins, les PDG des entreprises sont des Français.
Ah oui.
Donc, ils ont été obligés, ces experts-là, d'aller travailler ailleurs. Il semble que ça ne marche plus en France. En tout cas, ça fait mal à leur fierté et ça fait mal tout court.
Et ça ouvre la voie, malheureusement, ça augmente les chances que Marine Le Pen soit la prochaine présidente française, là, ce qui fait vraiment peur.
Oui, et les chiffres commencent à le montrer. Les chiffres que j'ai lus cette semaine... C'est que dans une finale, tu sais, dans la deuxième... Dans le deuxième tour, elle perdrait 52-48. 52-48, Bernard, là, 4 points, tu sais ce que c'est en politique.
C'est rien.
Si ça continue à se détériorer, et s'ils ne reprennent pas le contrôle, je veux dire, t'as raison. Il n'y a pas d'autres véritables adversaires. Il y a toutes sortes de monde là, dans la politique française. Xavier Bertrand, puis Jean-Luc Mélenchon, puis tout ça. Mais ce ne sont pas vraiment des gens qu'on peut voir arriver à la présidence de la France.
OK.
Bon.
Parlons d'Israël. Oui, ça, c'est positif. C'est comme le pendant positif du désastre d'ailleurs. Hein?
Écoute, c'est presque incroyable. T'sais, on dit que les Israéliens sortent massivement, les restaurants sont complets plusieurs semaines à l'avance. Il y a beaucoup de monde dans les bars, il y a beaucoup de monde sur les plages et dans les rues. C'est ce que raconte Stéphane Amar, un correspondant pour la chaîne Arte en Israël. Il faut se rappeler que pour y arriver, un seul pays a accepté de payer le double du prix demandé pour obtenir des vaccins de Pfizer avant même l'obtention de l'homologation. Mais là où c'est cette ligne-là là, qui est importante, le pays a également transmis les renseignements médicaux sur les effets du vaccin à la pharmaceutique, et ça s'est avéré être l'argument décisif. C'est comme si tu disais à Pfizer, non seulement on te paye le double, mais tu vas avoir un laboratoire réel, un pays de 8 millions d'habitants que tu vas pouvoir monitorer, suivre, surveiller. C'est ce qui explique ce qui est arrivé. Et souviens-toi, j'imagine que j'en ai déjà parlé, au plus fort de la campagne de vaccination en Israël, 250 000 personnes étaient vaccinées chaque jour.
C'est massif.
Moi, je trouve que c'est de la bonne nouvelle parce que, tu sais, t'as entendu parler de la publication de Lancet cette semaine. J'en aurais normalement parlé hier, là, mais Lancet a réuni un groupe de 7 experts de différents pays pour leur demander, est-ce que le vaccin fait la job, grosso modo?
Ouais.
Réponse, oui, mais c'est pas suffisant. Vous avez tort de penser que vous allez combattre, que vous allez vaincre la pandémie uniquement par la vaccination. Moi, ça m'a foutu la déprime, Bernard.
Qu'est-ce qu'ils disent? Ça va prendre quoi de plus?
Des mesures du type de celles qu'on a en place à l'heure actuelle et une meilleure coordination mondiale parce que il faut toujours se souvenir que le virus ne connaît pas les frontières. Alors, dans un continent comme l'Europe où les pays sont collés les uns sur les autres, ce qu'ils disaient, c'est si tout le monde ne travaille pas ensemble, plus ou moins de la même façon, on ne réussira pas à vaincre le virus. Et aussi, il disait, à mesure qu'on avance et que des continents comme l'Afrique et l'Amérique du Sud sont en retard énorme sur la vaccination, ce qui va arriver, c'est qu'on va être pleinement vacciné dans les pays riches, puis il va y avoir des mutations qui vont se développer dans ces pays-là qui n'ont pas été vaccinés.
Et qui vont revenir nous frapper.
Et pour lesquels ces variants-là, les vaccins ne fonctionneront plus. C'est aussi simple que ça.
Alors, on ne peut plus, là, je l'ai pas lu l'article, mais ce que tu décris, c'est on ne peut plus parler d'immunité collective, il va falloir parler d'immunité planétaire.
Oui, c'était en gros une de leurs principales conclusions. Ne vous faites pas d'illusions, vous n'allez pas vaincre la pandémie, le virus, à moins de travailler tous ensemble et en sachant tout le temps que tant que tout le monde n'est pas protégé, personne n'est protégé.
Bon, ben écoute, c'est super réjouissant.
Ça m'a donné la déprime. On s'en doutait un peu, mais tu sais.
On va espérer que les vaccins vont être efficaces contre toutes les formes de variants, ou en tout cas un très grand nombre de variants, Luc, et puis peut-être que de cette manière-là, on sera protégé suffisamment longtemps, le temps de développer d'autres vaccins qui vont nous permettre de se protéger contre les nouvelles formes de variants.
Mais tu sais ce que ça veut dire ici, là, au Québec, là, au Canada, là, ouais. Ça veut dire que on serait peut-être, quand on va avoir terminé notre campagne de vaccination, il faudrait peut-être recommencer, comprends-tu?
Ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux, Luc? Honnêtement, des vaccins, de toute façon, on en a à chaque année contre l'influenza. S'il faut en avoir un autre contre les variants de la COVID-19, ben garde, ça sera ça, là.
Ben moi,
ça
je suis plus terre-à-terre. Je me ça dis, si c'est pour réexploser à l'automne, Noël, il passe, tout y passe. Une autre fois.
Luc, veux-tu, on va se rendre à Saint-Jean, là, puis après ça, on jasera de Noël. Écoute, faut s'en aller à pause. Je sais que tu voulais me parler un petit peu de la Russie, mais résume-moi ça en 30 secondes. Le Biden qui prend d'autres sanctions contre Poutine, là, c'est ça, là?
Il prend d'autres sanctions très, très, très sévères contre Poutine, plus sévères que ce qu'on a vu depuis très longtemps. Et ça, c'est 2 jours après avoir demandé à Poutine s'il serait d'accord pour tenir une rencontre au sommet. Alors, on joue l'eau froide, l'eau chaude, l'eau froide, l'eau chaude. Comme tu as dit, on se met un gun sur la table, puis après, on va parler.
Voilà, OK. On va jaser hockey, toi puis moi, après la pause, avec un journaliste que j'apprécie énormément. Je lis ses textes constamment et je l'aime parce qu'il souvent il va plus loin que ce qu'on lit ailleurs. Il s'agit Marc-Antoine Godin, donc journaliste principal à Athlétique Montréal. C'est un collaborateur aussi au 98.5. Il nous attend de l'autre côté de la pause pour faire le point sur ce qui se passe, mes chers amis, avec la sainte flanelle qui l'est de moins en moins.
Voilà.